France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Ah bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Nordal Lelandais condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyé. Justice a été rendue, estiment les familles de la victime et de l'accusé qui se sont rapprochés à l'issue du verdict. Nordal Lelandais qui doit de nouveau comparaître devant la justice l'an prochain pour le meurtre de Maëlys. Les autres titres.
Pluie de roquettes sur Tel Aviv, frappe musclée d'Israël sur Gaza, le cycle infernal de la violence au Proche-Orient et un bilan qui s'alourdit au fil des heures. Isoler les candidats une semaine avant les épreuves du bac, l'idée fait son chemin. Il ne faut pas désespérer les élus du Modem, petite leçon pour l'exécutif après le couac sur le pass sanitaire finalement adopté. Et puis quand l'œil d'Yves Saint-Laurent se pose sur l'évanescente Emma Bovary, cela donne un petit bijou de livre illustré.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Une femme historienne de l'art pour relancer Sciences Po. Elle succède à Olivier Duhamel à la tête de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et doit faire oublier scandales et critiques qui bousculent l'école depuis quelques mois. Première interview audiovisuelle de Laurence Bertrand d'Orléac.
Et on se retrouvera, Léa, après ce 7h50 à 8h20 pour le grand entretien de la matinale, avec aujourd'hui la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui répondra à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Ce sont les premiers mots hors de la salle d'audience de l'avocat de Nordal Lelandais qui, dans un souci d'apaisement, avait choisi de ne pas s'exprimer publiquement avant le verdict. Verdict rendu donc un peu avant minuit par les jurés de la cour d'assises à Chambéry. Nordal Lelandais, condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyé. La très grande dignité des familles et la qualité des débats ont permis de rendre une justice apaisé. Jean-Philippe Degnaud est à Chambéry pour France Inter.
C'est une scène rare et émouvante. À peine la cour s'est-elle retirée que la mère et la sœur de Nordal Lelandais s'approchent de la famille Noyé. Christiane Lelandais réconforte Gaëtan, le frère d'Arthur Noyé. Dans une profonde dignité, souligne Didier Noyé, le père du jeune caporal.
Le premier jour, nous sommes allés vers Madame Lelandais. Le dernier jour, elle est venue vers nous. Je crois que je sais même pas si on s'est dit des mots, si on a dû dire des mots, mais c'était des mots qu'on cherche, qu'on ne trouve pas forcément, mais c'était surtout des regards. Tâchons, chacun de notre côté, d'avancer.
Et dans ce même esprit, l'avocat de Nordal Lelandais indique que son client ne fera pas appel pour éviter avant tout de nouvelles douleurs, précise Maître Jakubowicz.
On a jugé un homme, et il a été jugé comme un homme. Le plus important, c'est que les différents acteurs de ce procès, aussi bien la famille de Nordal Lelandais que Nordal Lelandais, que la famille Noyé sorte d'ici en se disant « justice a été rendue ». Voilà, refermons ce dossier, ayons une pensée pour Arthur Noyé, ce jeune homme qui n'aurait pas dû mourir et qui malheureusement est mort.
Nordal Lelandais et son avocat connaîtront tout de même un second rendez-vous judiciaire l'an prochain pour répondre cette fois du meurtre de Maëlys où il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Jean-Philippe Degnaud à Chambéry pour France Inter. Quant au meurtrier présumé du policier tué à Avignon la semaine dernière, il a été mis en examen hier soir pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le jeune homme de 19 ans a été écroué à la prison des Baumettes à Marseille.
Il est 7h04, Agnès, le Proche-Orient s'enfonce dans la violence.
De roquettes, sirènes, frappes aériennes, morts, blessés. Une nuit de terreur pour les civils israéliens et palestiniens. Le djihad islamique et le Hamas disent avoir tiré 300 roquettes en direction d'Israël. L'armée israélienne a de son côté détruit le siège de la police à Gaza et bombardé plusieurs immeubles. Bilan provisoire, 35 morts, dont 10 enfants côté palestinien et 5 côté israélien. L'angoisse des habitants de Gaza était également palpable hier. Alice Froussard a pu joindre des habitants calfeutrés chez eux.
Encore hier, à Gaza, un immeuble de 10 étages a été bombardé. Un bureau du Hamas se trouvant à l'intérieur, mais une cinquantaine de familles, averties 15 minutes avant les frappes, se retrouvent sans logement. Nizar habite à Gaza City.
Il y a des bombes un peu partout, on les entend toutes. Et à Gaza, se sentir en sécurité n'est pas possible. Nous n'avons pas d'abri, on reste seulement chez nous.
Le plus compliqué, c'est tenir mentalement, dit-il.
On essaie de préparer aussi mentalement nos enfants. Je dis tout le temps à ma fille de 3 ans qu'il y a plein de feux d'artifice dehors, juste pour qu'elle se sente mieux. Israël ne s'inquiète même pas des dommages collatéraux. S'ils veulent cibler quelqu'un, ils ne se soucient pas de savoir s'il y a des enfants à côté.
Plusieurs enfants ont déjà été tués. Omar Chaban, fondateur et directeur de Palfink pour les études stratégique de Gaza, redoute un scénario comme en 2014.
Comme ça avait commencé légèrement mais que ça s'intensifiait de plus en plus, personne ne s'attendait à ce que la guerre de 2014 dure 51 jours. Là, ça fait bien plus de 24 heures.
Et alors que les habitants craignent l'escalade, Israël dit vouloir intensifier ses frappes, le Hamas se dit prêt à répondre. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Nous serons en direct de Jérusalem dans le journal de 8h et le Conseil de sécurité de l'ONU doit de nouveau se réunir en urgence aujourd'hui.
Il est 7h06, la crise du Covid en France et cette question, Agnès, comment assurer la sécurité sanitaire lors des épreuves du bac?
Avec un premier grand rendez-vous le 17 juin, l'écrit de philo et l'écrit de français pour la filière générale et technologique. Certains établissements ont décidé d'assurer la dernière semaine de cours en visio pour isoler les adolescents. Une initiative qui pourrait faire tache d'huile, Sonia Princé.
À Pithiviers, Paris ou Poitiers, dans de nombreuses villes, des lycées ont décidé de ne pas faire revenir les élèves une semaine avant le bac pour éviter les contaminations. Un confinement préventif, en quelque sorte. Ce sera le cas au lycée Galilée de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, où Julien Marsay est professeur de français.
Dans notre lycée, effectivement, nous avons pris la décision de façon collective et collégiale lors d'un conseil pédagogique. Il a été décidé par principe, par mesure de précaution, de ne pas faire venir les élèves une semaine avant leurs épreuves de philosophie et de français. Ce qui fait que nous arrêtons les cours le 10 juin.
Pour l'instant, il s'agit d'initiatives locales, mais le principal syndicat des chefs d'établissement réclame une décision au niveau national, comme le dit Bruno Bobkiewicz du SNPDEN.
Je crois que l'idée est en train de faire son chemin et il serait probable qu'il y ait une communication à terme sur cette question. En tout cas, elle serait plutôt de bon sens. Donc on pourrait, de ce fait, à l'approche des écrits, on est plutôt sur une logique de révision, imaginer des révisions à distance, à 100%, comme on a appris à le faire à plusieurs reprises. Et donc pas de présence des élèves qui passent les examens, les jours qui précèdent les examens.
Le ministère n'a pas encore donné de consignes générales, mais il y a urgence. Il ne reste qu'un mois de cours avant le bac.
Faut-il isoler les candidats avant les épreuves? C'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et puis les universités accueilleront l'an prochain 16 700 étudiants en deuxième année de médecine. C'est 1700 de plus que cette année, mais moins que les 2000 promis par le gouvernement. La situation sanitaire continue de s'améliorer avec moins de 4 800 malades en réanimation. Moins de 20 000 nouvelles contaminations en 24 heures, contre plus de 24 000 mardi dernier. Côté vaccination, plus de 650 000 doses délivrées hier. Plus d'un adulte sur trois a aujourd'hui reçu au moins une dose de vaccin. Et à partir d'aujourd'hui, tous les plus de 18 ans peuvent bénéficier de doses inutilisées en fin de journée. Inscription obligatoire sur Doctolib. Et sur le plan politique, la majorité a subi hier un sérieux revers à l'Assemblée. Lors d'un premier vote, notamment sur la mise en place d'un pass sanitaire, les députés Modem ont voté contre, estimant ne pas être suffisamment écoutés. L'exécutif a dû demander une seconde délibération dans la soirée pour que le texte soit finalement adopté, en acceptant également d'avancer la fin de l'état d'urgence sanitaire à fin septembre au lieu de fin octobre. Un épisode, Karine Bécart, qui laissera des traces.
C'est une petite victoire savoureuse pour le Modem. Le parti de François Bayrou vient de rappeler à la majorité que sans lui, c'est-à-dire sans ses 56 députés, les projets de loi ne parviennent plus à être votés. Donc il serait de bon ton de faire attention à cet allié, de savoir l'écouter et de le respecter. Or, depuis le début de cette année, c'est vrai que la proportionnelle réclamée par le patron du Modem a été progressivement mais efficacement mise de côté. Idem pour le vote par correspondance, autre demande des députés centristes pour renforcer la vitalité démocratique. C'est une idée qui a été très rapidement retoquée. Quant à l'état d'urgence, depuis des mois déjà, le Modem rappelle qu'il faut raccourcir les délais et les soumettre plus régulièrement à l'aval du Parlement, ce qui n'a jamais été entendu par le gouvernement. Seulement, les temps ont manifestement changé. C'est ce que semble avoir voulu dire cet incontournable allié de la majorité. À un an de l'élection présidentielle, il va falloir accepter de mieux le considérer.
Et puis le Premier ministre a confirmé hier soir le renforcement des sanctions après les refus d'obtempérer. Il y en a un toutes les 30 minutes, a dit Jean Castex sur France 2. Des refus essentiellement routiers qui pourront être punis de 2 ans de prison assortis d'une suspension du permis de conduire et d'une saisie du véhicule. Prudence donc sur les routes. Beaucoup de monde attendu dès ce soir et pour les retours du pont de l'Ascension dimanche. 1 million de voyageurs également dans les gares selon la SNCF. Très prisé, le littoral atlantique. Stéphanie Scock a croisé un couple de Lillois devant l'office du tourisme d'Arès sur le bassin d'Arcachon. Reportage.
Ils ont fait 850 kilomètres pour ce week-end de l'Ascension avec 2 jours d'avance sur le gros des troupes. Il faut dire que Sophie et Frédéric avaient une grosse envie de vacances. Ils se sont décidés la semaine dernière.
Vraiment, dernière minute parce que tous nos congés ont été annulés précédemment. Février, avril, ça a été annulé. On avait regardé un petit peu, on savait qu'on n'allait pas avoir un super beau temps, mais voilà, ça, c'est pas primordial. Aujourd'hui, c'est le changement d'air. On a vraiment besoin d'un changement d'air. Et puis, le dépaysement, hein, premièrement, puisque de toute façon, on ne connaît pas du tout visiter une autre région. Du bon air, des huîtres, et puis voilà, tout ce qu'on pourra découvrir sur le bassin d'Arcachon.
Loin de l'île et de son quotidien, c'était la priorité de Frédéric.
Changer de région, quoi. Sortir de ce rayon à 10 km où on n'en pouvait plus de tourner en rond et pouvoir partir en vacances, sortir du télétravail aussi. Les 8 heures par jour enfermés à la maison, ça devient pesant en fait.
Sophie et Frédéric vont visiter le Cap Ferré, Arcachon et la dune du Pilat. L'office de tourisme leur a également proposé une séance de pêche à pied à marée basse et une balade dans les prés salés.
Reportage de Stéphanie Scock de France Bleu Gironde. Enfin, Emma Bovary, c'est lui, Yves Saint-Laurent, dont le grand public découvre aujourd'hui la fascination pour l'héroïne de Flaubert. Yves Saint-Laurent, qui avait même très jeune dessiné une Emma Bovary, séductrice et mutine, que l'on peut désormais découvrir dans une édition proposée par Gallimard et la Fondation Saint-Laurent. Ilana Mourioussef.
Être habillée par le plus grand couturier de son époque, Emma Bovary en rêvait, Yves Saint-Laurent l'a fait. Car la belle Emma a été pour Saint-Laurent une passion de jeunesse. Maxime Catroux, vice-présidente de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent et filleule du couturier.
Je crois qu'on ignorait tous la profondeur de cette passion jusqu'à ce qu'on retrouve dans les archives qui sont désormais au musée Saint-Laurent des dessins que Yves Saint-Laurent a réalisés lorsqu'il avait 15 ans. Il a eu un tel choc à la lecture du roman qu'il a dessiné une quinzaine de dessins magnifiques reproduits dans cette édition et qu'il a effectivement, comme vous le disiez, recopié à la main à peu près 2 chapitres qui sont presque calligraphiés de sa main de Madame Bovary.
La vue de ces pages manuscrite est évidemment émouvante et sa compréhension du personnage de Madame Bovary l'est encore plus. Elle apparaît joyeuse, mutine, le sein insolent.
Son Emma Bovary ressemble un peu à Jennifer Jones ou à d'autres actrices des années 50 sous l'influence des pin-up un peu américaines, donc très mutine comme vous dites, avec la poitrine plutôt offerte et l'œil qui frise. Je ne crois pas qu'à 15 ans il aurait dit ce qu'il dit du désarroi des femmes un peu plus tard dans sa vie. Dans une interview qu'il avait accordée à Catherine Deneuve, il a dit que pour lui, Madame Bovary exprimait le désarroi des femmes à toutes les générations.
Peut-être que, comme Flaubert, Saint-Laurent aurait pu dire « Madame Bovary, c'est moi ».
Madame Bovary de Flaubert, illustrée par des dessins de jeunesse d'Yves Saint-Laurent, un ouvrage publié aux éditions Gallimard.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes, moment d'histoire et d'émotion, 80 ans après la rafle du billet vert.